vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
Dans la soirée, Fernande va le voir et s'assoit sur le bord du lit. Il ne dort pas. Tu vas mieux?
Oui, un peu.
Je suis contente que tu ailles mieux. Tu verras, le séjour te fera du bien. Ta mère m'a dit que tu travaillais trop. C'est pas bon pour la santé.
Moi, je t'aime bien. Je te trouve très gentil. Ce qui me plaît en toi, c'est que c'est ton côté discret. Tu ne dragues pas les filles. J'aime pas les mecs qui jouent au coq. Et tu me trouves comment, toi?
Voilà une réponse auquel on ne peut répondre franchement. Surtout après les gentillesses que l'on vient d'entendre. Elle a dû y faire exprès, la garce.
Je te trouve gentille. C'est tout? Bien, quoi? Qu'est-ce que tu aimes en moi?
Tout?
Et physiquement?
Tout?
Tout, ce n'est pas une réponse. Mes seins, tu les aimes?
Oui, oui. Elle sourit. Vous êtes tous pareils, vous les hommes. Les seins des femmes, c'est primordial pour vous. Pourtant, qu'est-ce que des seins? Tiens, regarde. Elle soulève son pull et les lui montre. Alors, tu les aimes toujours?
Oui.
Tiens, touche. Comme cela, tu te rendras mieux compte. Elle lui prend la main et la pose dessus. Cela lui fait ni chaud ni froid. Il sent une grosse chose molle entre ses mains. Alors, ils te plaisent?
Oui.
Je te permets de les embrasser. Il se dit, elle est dégueulasse. C'est décute rapidement. Ça lui a fait plutôt l'effet contraire et escompté. Elle se dit, il ne faut pas trop lui en demander. C'est la première expérience. Elle lui sourit et lui dit, cela suffit. Avec vous les hommes, il faudrait tout vous donner d'un coup. Elle remet son pull en place et se lève.
Vous voulez dîner?
Oui. Il se lève. Et il quitte la chambre. Elle ne lui a donné que la moitié des gouttes. Il se dit, je ne peux pas me sauver, où irai-je en pleine campagne? Il passe une bonne nuit et se réveille moins ensuqué. Le lendemain matin, il peut se promener avec elle dans la campagne. Malgré que l'on soit en plein hiver, ça sent le printemps. De marcher, cela lui vient du bien. Il a repris des couleurs. Et lui dit, vous savez, j'ai peut-être l'air comme ça, enfin, vous comprenez, mais je tiens à vous, j'ai besoin d'être près de vous. Après, nos études, si vous voulez, nous pourrons nous fiancer, nos deux familles sont d'accord. Il soupire et dit, je sais Fernande, mais personne ne m'a demandé mon avis. Ma famille,
m'a toujours forcé à faire des choses contre ma volonté. Ou sans me demander mon avis. Et puis, je ne serai pas mon mari. Tous les hommes le disent, mais moi, je ne suis pas comme les autres. Vous m'avez démontré le contraire hier au soir. Ah, oh, ça ne signifie pas grand-chose. Mais vous le savez fort bien. J'étais pas dans mon état normal. Et encore, je ne le suis pas aujourd'hui. Elle lui dit, c'était peut-être avant que vous ne l'étiez pas. Comment cela? C'est ce que pense votre famille. Ah! Oui, ma famille. Parce qu'on n'a pas les mêmes désirs, affinités qu'eux, on ne peut être qu'anormal. Si vous pensez comme eux, je ne veux plus vous revoir, Fernande. Ne vous fâchez pas, je ne me fâche pas. Et puis, il vaut mieux que je vous le sachiez. Je vous aime bien, mais je vous aimerais que d'amitié. Je ne peux pas avoir de l'amour pour vous. J'ai aimé et aime encore une autre personne. Comme tous les jeunes gens. Mais un premier amour est souvent une chimère. Non, Fernande, ce n'est pas vrai. Allons, entrons chez vous. Je suis fatigué. Ce doit être ces maudits médicaments. Se sont assis sur une chaise devant la maison. Le soir, Émile est allé se coucher après avoir bu des gouttes et les a prises en se disant que pour le moment, il valait mieux ne pas trop réfléchir et se souvient de la conversation de ses parents. Réveillé par un froissement. Voix surpris, Fernande en chemise de nuit entrée dans son lit. Il n'a pas eu le temps de réagir qu'elle est déjà à ses côtés. Fernande, que faites-vous là?
Vous voulez que j'enlève ma chemise de nuit? Voilà.
Il fait le geste de sortir du lit. Le retient par le bras.
Ne soyez pas stupide, je ne vous mangerai pas. Et si vous n'avez pas envie de moi,
je n'ai pas envie de vous.
Elle sourit et lui dit, c'est ce que nous allons voir.
Elle le plaque contre elle, le couvre de baisers et le tourne. Elle est sur lui et le couvre de baisers. Il ne réagit pas, dégoûté. Voyant qu'il ne réagit pas, de dépit, de tristesse, elle s'allonge à côté de lui et pleure.
lui prend la main et lui dit « Je vous avais prévenu, ne pleurez pas. Vous trouverez un jeune homme qui sera capable de vous aimer vraiment. »
C'est vous que j'aime. Après ce qui s'est passé, je suis incapable d'être un autre.
Mais il ne s'est rien passé.
Pour moi, si, vous m'avez humilié. Aucune fille n'accepterait cela.
Elle se lève, remet sa chemise de nuit. Où allez-vous?
Où je veux.
Ne partez pas fâchée. Elle sort de la chambre. Lui aussi. Ils ne veulent pas qu'il reste fâché. Il veut qu'il soit bons amis. Il la voit qu'il descend les escaliers en chemise de nuit. Il est en pyjama. Il court après. Elle a ouvert la porte de la maison, lui aussi. Dehors, il fait nuit, presque nuit de printemps. Elle court pieds nus sur le chemin. Il la suit et la rattrape. Il prend la main et lui dit « Je vous demande pardon, mais je vous avais prévenu. » Je suis idiote, et surtout honte de moi-même, de ce que j'ai fait. Je vais me prendre pour une... pas grand-chose. Je vous demande pardon, il lui dit, moi aussi, de ne pouvoir vous aimer. Il se regarde, se sourit, elle dit, que faisons-nous maintenant comme ça? Il lui dit, on marche un peu, c'est la pleine lune. J'adore la pleine lune. Il lui prend la main et marche. Et lui dit, je vous donnerai plus jamais ces affreuses gouttes. Merci, je pourrai enfin respirer. Elle lui dit, vous ne direz à personne ce qui s'est passé, n'est-ce pas? La personne, promis. Un moment, puis une heure plus tard, se sont retournés, les pieds gelés. Il lui a plus donné de gouttes. Ils se sont promenés, ont pris la voiture pour aller à Crest. visitait un château, ou plutôt une tour, qui avait servi de prison au Moyen-Âge. Ils l'ont visité, ont vu les accessoires de torture et les geôles. Les escaliers en colimaçon donnent le vertige. Manger au restaurant au bord d'une rivière. Émile se sent bien et trouve Fernande gentille. Il se dit qu'après ce qui s'est passé, dispute, réconciliation, qu'elle s'est donnée à lui complètement et malgré qu'il n'ait pas accepté, on ne peut la laisser tomber. Il doit continuer à la revoir, mais qu'un ami. Après le restaurant, ils sont rentrés chez à la maison pour préparer leur bagage. Il va dans sa chambre faire ses bagages. Des Barbara parler dans le salon. Barbara dit « Alors ?» Rien. Mais je l'ai eu par le sentiment. Ce sera plus long, c'est tout. Et Mi sent une certaine amertume. Il se sent pris comme dans un étau. Et l'ennui. Il les poursuit en l'étudiant automatiquement. Cela l'énerve, car il se dit qu'il pourrait apprendre autre chose. Il a toujours ce cahier où il a écrit l'histoire de Patrick, les deux versions. Il est dans le tiroir de son bureau et de temps en temps le relit. Il n'a pas envie pour le moment d'écrire. Sa vie est trop monotone. Bien sûr, il pourrait écrire sur ses relations avec Fernande, mais les vivre, c'est déjà agaçant, alors les revivre, non. Il se méfie d'elle, mais n'est pas assez ferme pour l'envoyer promener. Elle vient souvent le voir et les parents de Patrick lui font la fête. Elle lui propose souvent de sortir avec elle. À chaque fois, il dit qu'il ne peut pas. Mais à chaque fois, la famille est là, surtout la mère,
qui le pousse quasiment dehors. Une fois dehors, furieux, il est 20h, la nuit est douce, elle veut l'inviter au cinéma. Il lui dit, écoutez Fernande, vous savez fort bien que je ne veux pas sortir avec vous. Alors pourquoi me forcez-vous à aller avec vous? Il est surpris par le culot de ce qu'il vient de dire, mais il n'en peut plus. Mais je ne me force pas, Émile, je vous propose simplement. Vous savez fort bien que je ne peux refuser. Toute ma famille. Et dis-je que j'aille avec vous. Si je ne le faisais pas, l'on ne me laisserait pas tranquille. Promettez-vous-en à votre famille, mais pas à moi. À vous aussi, parce que vous êtes de leur côté. De quoi, Émile? Vous avez trop d'imagination. Non, je sais, je vous ai entendu. On veut me marier avec vous, mais moi je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit. Et la fois que je vous l'ai dit, nous avions fait un pacte d'amitié. Et malgré ça, vous continuez à me harceler. C'est justement par amitié pour vous que je peux sortir de temps en temps avec vous. Est-ce si terrible que cela, que de sortir avec moi? Non. Vous ne voulez plus que nous nous voyons? Que nous soyons amis? Non. Eh bien, je vois que vous êtes encore déprimé et que vous avez besoin de détente et de vous distraire. Heureusement que je suis là pour venir vous distraire. Vos études vous accaparent trop. Ah, allons au cinéma. Elle est décidément démente. Il vaut mieux que j'arrête. Ça ne sert à rien. Elle tourne les dialogues en dialogue de sourds.
Crois-tu que passe cette jument, dis donc?
Elle doit bien faire dans les 600 livres.
Et d'après moi, l'autre fait dans les 400 peut-être, hein?
Oui, environ.
Et probablement, les talons en fait 800.
Oh, un petit peu moins, ils doivent faire dans les 1900 à 2000 ans.
Alors qu'est-ce que ça représente?
Et 600 les livres, ça devrait faire de 110 à 120 dollars.
Comment partage-t-on la somme?
Oh, comme tu voudras. Ça irait, 50 pour moi et pour l'avion?
Ok. Je demanderai 40 pour moi et le camion. Ça en fera 25 pour toi, Pierre, t'es d'accord? Pierre!
Le film, il la raccompagne jusqu'à chez elle. Avant qu'elle ne rentre dans son allée, elle lui dit « Je tiens à vous. Si vous saviez comme je tiens à vous, je vous aime. » Elle entre dans son allée. Émile est malgré tout ému par cette déclaration. et se dit qu'il est trop sévère avec elle, que malgré tout, elle l'aime. Il devrait sortir un peu avec elle pour lui faire plaisir, puisqu'elle semble l'aimer tellement. Dans sa chambre, il a le cafard et se dit qu'il est pris dans un étau. Alors, il embrasse fortement sa croix. Le temps passe, il est pris par le tourbillon de son emploi du temps. Court Fernande, et vous, elle vient souvent le voir. Et comme elle le regarde d'une façon tellement suppliante, il n'ose pas lui dire non. Alors il sort une fois par semaine. Il sait que sa mère l'épie et à chaque instant voit à quelle heure il entre. Il sort, surveille ce qu'il fait, lui donne de l'argent de poche juste le jour où Fernande vient le chercher. Son père surveille ses études et regarde ses cahiers. Il est satisfait de lui car il voit qu'il travaille sérieusement. Lorsque le samedi soir il sort, sa mère fait les gros yeux et lui demande « Où vas-tu ?»«
Je vais faire un tour. »
Elle fait la grimace.
« Tu ferais mieux de rester à la maison. Tu sors avec Fernande. Cela ne se suffit pas ?»«
Non. » Il a envie de lui dire « Surtout avec Fernande. » C'est une obligation, une corvée. Moi je veux sortir pour moi, pour mon plaisir. »
Mais il n'ose pas le dire. Elle lui dit
« Fais attention à tes fréquentations et à ce que tu fais. »
« Je sais ce que je dois faire. »
« Oui, mais ne nous amène pas d'histoire. Notre famille n'en a jamais eu. »
Et il ouvre la porte pour sortir de l'appartement.
Voir le petit Gérard qui est toujours aussi mignon et gentil. Il aime s'enivrer de son odeur, de sa chaleur, le baise de partout pour le remercier de ses trésors. Gérard ne lui demande jamais rien et il se contente de ce que lui donne Émile. Un jour, il a fait un cadeau à Émile, un cadeau d'un stylo, un stylo qu'il a acheté dans un bureau de tabac avec un écran en carton. Ils sont assis sur les escaliers. Émile a été très touché et ému, car il sait qu'il n'a pas beaucoup d'argent.
Je te remercie, ça me touche beaucoup.
Il lui donne un baiser sur la joue et lui caresse ses cheveux.
Je sais comment te remercier. En continuant à nous voir et à nous aimer très fort.
Émile se sent coupable, car il ne l'aime pas autant que ce que pense Gérard. pour moi aussi.
Non, je sais que malgré que tu as une famille et les moyens, tu n'as pas beaucoup d'argent.
Émile a le corps gros. Gérard se lève.
Et dit, je me sauve car ce soir il y a mon père. Il va me demander ce que je fais.
Émile se lève.
Émile lui donne un baiser.
Gérard monte les escaliers en courant.
Émile entend qu'il sonne à la porte.
Une voix d'homme crie. Tu dis que tu sors 5 minutes et tu restes 1 heure dehors. Où étais-tu?
Chez un copain.
Entre.
Et la porte s'est refermée. Émile, ému, sort de l'allée.
Entre dans sa chambre, il voit son père assis à son bureau, le cahier à la main.
Émile rougit.
Il ne faut pas écrire des histoires comme celle-là. Tu te rends compte, si quelqu'un l'avait lu.
Émile furieux lui dit,
rendez-moi mon cahier. Il est personnel.
Son père se lève.
Et lui dit, non, il faut que tu deviennes adulte et apprennes à vivre.
Toutes ces choses-là, c'est bon pour les enfants. Et encore, tu es un homme maintenant. Ces rêves doivent cesser.
Il prend le cahier à deux mains et le déchire de toutes ses forces.
Il jette le morceau à terre.
Émile pleure de rage.
Il se rue vers son père.
Il lui dit, vous n'avez pas le droit. Je ne vous pardonnerai jamais.
Il se penche sur son père et veut le gifler. Le père lui rattrape le bras et d'un coup le fait tomber à terre.
Puis il se dirige vers la sortie.
Mais avant de quitter la pièce, il dit
« J'ai fait ce que je devais faire. C'est mon rôle de père. »
Et il sort de la chambre.
Émile va ramasser son cahier déchiré. Il pleure de rage.
Poser les morceaux sur la table. Il les regarde. Thank you.
violer dans ce qu'il y a de plus intime. Mais le cahier en morceaux dans les tiroirs de son bureau. Et pleure, assis sur la chaise. Il se sent vidé, triste à en mourir. Mais qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait ? Que fais-je sur cette terre ? Quel avenir vais-je avoir ? Ingénieur chimiste, chef d'entreprise, marié avec Fernande. Quelle comédie ! Pourquoi n'ai-je pas le droit de choisir ma vie ? On m'a tout pris. Je n'ai plus de liberté. Même Patrick, notre histoire, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Je ferais mieux de mourir. Oui, mourir. Au moins, je serais tranquille. Je serais bien fait pour eux. Pourquoi suis-je né ? Avec des goûts, des besoins autres. La vie n'est pas faite pour moi. Finissons-en. Pourquoi attendre 70 ans ? Oui, finissons-en. Oui, oui. Il se lève et sort de sa chambre. S'éloigne des rues passantes et choisit des petites ruelles. Il ne sait pas vraiment où il va, mais veut aller à la mort. Il se sent calme et décidé, et en même temps fier d'avoir pris cette décision qu'il pense hors du commun. À chaque fois qu'il croise un passant, il le regarde avec dédain. Après avoir marché pendant une heure, la fatigue est là et les idées noires lui reviennent. Le pourquoi de son désir de mort. Tout en marchant, il a les larmes aux yeux. Il se dit qu'on lui a tout pris. Voit Patrick, son doux visage, lui sourire, comme il aimerait être avec lui. Il marche. Il doit être très tard. Il pleure toujours et a froid. Ses membres sont engourdis. Il sent une espèce de brouillard dans la tête, ce qui l'empêche de vraiment de penser. De toute façon, il n'en a plus vraiment besoin. Tout est fini. Il ne
ne sait plus vraiment où il est. Sûrement dans la périphérie. Il marche sur un pont que domine une autoroute. S'arrête et regarde en bas. Toutes ces voitures, camions qui passent sans arrêt. Toutes ces lumières blanches, jaunes, rouges, toujours par deux. C'est ce qu'il aime le moins. Ce paysage lugubre. Où, près de l'autoroute, l'on voit des grandes barres d'immeubles pleines de petites tours avec la lumière. Il pourrait sauter la balustrade facilement. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas ici? Et si je me jetais dans le vide? Le vide serait rapide. Et regarde le bas, voit un trou noir avec des petites lumières. Sa décision est prise. Les larmes aux yeux, il fait le geste de sauter la rambarde. Mais, juste au moment où va passer la deuxième jambe de l'autre côté, sa vue se trouble. Il voit le visage de Patrick. Quelque chose qui lui serre la poitrine. Une voix qui lui dit de ne pas se donner la mort. Parce que Patrick est dans lui et qu'il mourra avec lui. Alors, il retire la jambe qui est dans le vide et pleure, pleure, se laisse tomber le dos à la balustrade. Il pleure pendant un moment. Puis se lève courbaturé et marche en pleurant dans le sens inverse. Il voit sur un panneau qu'il est à Vénissieux, grand trou, vers des jardins ouvriers, et un peu plus loin, carrefour magasin. Il marche en pleurant, puis tout d'un coup se dit, puisque je dois vivre pour Patrick, je le ferai. Ma vie est à lui et il est en moi, et personne ne peut me l'enlever. Je me moque de ce qui peut m'arriver, je vis en moi. Ils peuvent me demander ce qu'ils voudront. J'aurai plus peur, car ils n'auront plus prise sur moi. Patrick est en moi. Je vis en moi, pour ne plus jamais avoir prise sur moi. Très tard, tout le monde est couché. Toujours pris par ses études et Fernand qui vient le voir une fois par semaine. C'est un jour, il a l'impression d'étouffer, mais pense très fortement à Patrick. Thank you.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.